Bienvenue à la Casa do Choro, la maison du Choro, à Rio. Partout sur les murs, des photos d'archives de grands groupes, regionais et bandas do Choro. Tout en haut, un bar où se retrouvent quelques étudiants pour répéter quelques choros, en l'occurrence une valse. Les plus experts arrêtent volontiers leur conversation pour prodiguer quelques conseils aux plus novices et ne se gênent pas non plus pour la reprendre une fois la musique recommencée. Car la Casa do Choro est aussi reliée à une des plus grandes écoles de Choro, l'Escola Portachio, en plus de contenir d'importantes archives et un auditorium accueillant des artistes brésiliens renommés. Je rencontrai Daniel, professeur de guitare et musicien professionnel, venant participer au festival de Choro hivernal à la Casa do Choro. Dans ce festival se côtoient des musiciens du monde entier, un groupe du sud du Brésil, deux Français, un Italien, une flûtiste japonaise et beaucoup d'autres dont le portugais prend des accents exotiques. Au milieu de tout ce mélange surprenant, se dessinent mes premières interrogations face à la musique brésilienne. De cet endroit, je garderai un souvenir partagé entre des rencontres de voyageurs, de musiciens du monde réunis par une musique universelle et un milieu un peu académique, loin des images de Roda qu'on pouvait imaginer dans les rues de Rio. Une découverte surprenante, cependant, qui laisse bien des apprentissages.
D'un côté, il a la culture jamaïs qui est bien sûr très connectée à la culture américaine. Et si tu regardes la télé au Brésil, on a toujours les mêmes types de programmes qu'il y a aux États-Unis.
C'est la culture américaine.
La culture américaine. Mais d'autre côté, on a un peu la culture des résistances, qui résiste toujours à ce mouvement. C'est comme ici, par exemple. Ici, c'est un exemple. Hein. Ces deux choses sont ensemble. Hein. Je crois qu'il n'y a pas une frontière délimitée entre les deux. Je crois que c'est naturel, par exemple, ici à Rio, quelqu'un qui va au samba, au choro, et parfois regarde les programmes de télévision qui sont les plus insupportables.
Est-ce que c'est générationnel? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus les jeunes qui vont être américanisés que les vieux?
Les nouvelles générations, je crois qu'on peut, à cause de l'Internet et tout ça, les YouTube, ils ont plus des opportunités, des choix. Mais les générations, les plus vieux, ils sont toujours... Mais aussi, je pense qu'il y a une chose qui est un peu liée à la question des classes sociales aussi. L'opportunité d'accéder à certains produits culturels. C'est trop différent des gens, par exemple, qui sont ici, dans un festival de choro. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment la chance de connaître ce type de production. Et parce que ça, c'est jamais à la télé, les choros.
Ouais, donc ça, c'est plutôt une haute classe sociale, le choro. C'est un peu une élite.
Pas vraiment une élite économique, mais...
Culturelle, au moins.
Culturelle, ouais. Mais c'est vrai que cette question de la condition sociale, ça joue un rôle important. Parce que devenir musicien dans un pays comme le Brésil, c'est un peu... c'est un peu compliqué. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui viennent des familles des classes moyennes. C'est mon cas, par exemple. Et dans un moment de ta vie, il faut choisir d'être musicien professionnel ou aller dans un autre champ professionnel. Et parfois, tu ne peux pas faire vraiment ce que tu aimes faire dans la musique, par exemple.
Tu te soumets surtout aux besoins, on va dire, de la production de masse.
Ouais, c'est ça, finalement.
Est-ce que tu appelles les musiques populaires, il y a quoi dedans? Est-ce que par exemple le choro, c'est ce que tu vas appeler une musique populaire? La samba? Il y aura quoi d'autre?
On met tout dans les mêmes champs en fait. Ce qui n'est pas la musique classique au Brésil, c'est de la musique populaire.
Et la musique classique, c'est quoi finalement? C'est la musique classique européenne?
Ouais. Bien sûr qu'on a des compositeurs brésiliens comme Villa-Lobos, Francisco Mignoni, Radamés Yatali. Ce sont des musiciens qui avaient la technique de composition européenne de la musique occidentale. Et ça, c'est la musique des concerts, la musique classique du Brésil. La musique de Portugal joue un rôle spécial aussi dans la musique populaire au début du XXe siècle, parce qu'on avait un genre qui s'appelle modinha, qui c'est un genre de chanson de Portugal, qui a fait un mélange avec les styles de danse qu'on a commencé à développer ici. Ça, c'est très important pour la chanson du Brésil. Mais de la musique française, parfois, l'influence de l'impressionnisme, peut-être, Debussy, Ravel, tout ça, ça joue un rôle spécial. La musique de Tom Jobim, par exemple, c'est un compositeur de bossa nova. C'est très proche des les harmonisations des Satie, des Debussy. Les compositeurs du 19e de la musique de concert, ils étaient très attachés à la musique d'Italie, de l'opéra italienne. C'était au top à l'époque, c'était la même chose ici. On ne peut pas parler d'une musique brésilienne à cette époque-là.
D'accord.
Au début du 20e siècle, je pense qu'on commence à développer, c'est l'époque du nationalisme partout. Et ici, c'était la même chose. Du coup, on a commencé à développer un langage brésilien. Oui, ça, je pense que c'est un peu une surprise pour les gens qui viennent d'Europe ou des États-Unis, qui aiment la musique populaire du Brésil. Et quand ils voient qu'on étudie de la musique des concerts de l'Occident, de l'Europe, je pense que c'est un peu bizarre pour les gens qui viennent de l'étranger. Enfin, mais tu ne joues pas du samba, de la samba ou du choro à l'université. Maintenant, on joue ces genres-là, mais ça, c'est un mouvement un peu récent. La musique populaire brésilienne, elle a commencé à l'université dans les années 80. On a commencé à faire au niveau des cours à l'université, des facs de musique, à ce temps-là, les années 80. Les premiers cours de formation spécialisés à ça, ça a commencé dans une ville qui s'appelle Campinas, c'est dans la province de São Paulo. Mais on peut dire qu'au début, ça, c'était la musique populaire vraiment attachée au jazz américain. Mais ça commence à changer aussi, parce qu'on a une musique populaire très forte. On a aussi la musique instrumentale, qui ça ressemble un peu au jazz, mais comme un genre, pas l'esthétique, mais l'importance. C'est la musique instrumentale du Brésil, qu'il y a des gens qui s'appellent ça le jazz brésilien, c'est la musique instrumentale, mais avec les rythmes brésiliens, baião, samba, maracatu, et ça commence à être plus commun à l'université. Mais ça reste quand même un truc récent. Ouais.
Est-ce que c'est pas aussi lié avec un changement de classe sociale de ces musiques populaires? Parce que si je comprends bien, au début, le choro, par exemple, c'était la musique en tout cas un petit peu populaire. Et maintenant, ça devient une musique complètement à l'opposé. En fait, ça devient une musique un peu élitiste.
Bien sûr.
Est-ce que c'est pas le moment où justement il y a une transition un petit peu de...
Ouais, tu as raison, je pense. L'histoire de l'instrument, si on prend la guitare comme exemple, on va trouver des moments de notre histoire, c'est incroyable. Hein. Si tu penses à l'université des musiques ici à Rio, dans les années 60-70, la guitare ne pouvait pas rentrer à l'université parce que c'était un instrument des gens de la rue. Il a été nécessaire qu'il y ait un guitariste de la musique classique brésilien qui s'appelle Turíbio Santos. Les années 60-70, il est devenu l'un des plus importants guitaristes au monde. Et il a commencé à dire, ok, d'accord, je joue de la musique classique, mais il faut qu'on commence à changer les mentalités. Il faut que la guitare entre à l'université au Brésil, mais pas seulement pour la musique classique, mais pour jouer aussi les répertoires brésiliens de la musique populaire. Il a commencé à faire ça un peu à l'université ici, à Rio. Et les années 80, ça commençait un peu partout. Et aujourd'hui, c'est comme incroyable pour les nouvelles générations de penser au moment de l'histoire que la guitare n'était pas attachée à l'université. Ouais. Mais tu as raison, je pense qu'aujourd'hui, si on pense au choro, c'est un peu la musique des élites, parce qu'on ne peut pas trouver ça à la télévision. Il faut aller dans des endroits spécifiques, comme ici, où les gens sont, les musiciens d'ici ont une formation. En termes des études, des arrangements, des compositions. Et c'est pour ça qu'ils font un travail vraiment spécial. Dans les années 30, on avait l'importance de la radio partout, ici au Brésil aussi. Jusqu'aux années 30, les choros et la samba jouaient un rôle très important. Après ça, avec la télévision, on a commencé à la culture américaine de rock and roll et tout. Et après ça, le choro est un peu disparu de les paysages musicaux. Il y a plusieurs personnes qui ont l'envie d'être vraiment attachées à la culture américaine. Je crois que ça vient surtout de l'impact de la télévision, qui est vraiment attaché à les émissions américaines et tout. De l'autre côté, je crois qu'on a vu toujours l'importance des agents culturels et qu'ils savent l'importance d'un côté maintenir cette culture, mais d'autre côté faire ça bouger. Il faut que la préservation du choro, ça devient une politique culturelle. Mais en même temps, il faut qu'on joue ça, qu'on fasse ça bouger et que les gens continuent à faire des compositions et faire des mouvements. Et je crois que ça fait la différence aujourd'hui. Et c'est pour ça, pour les gens comme les gens qui travaillent ici à Casa do Choro. D'un côté, c'est un travail historique, comme tu as dit, des patrimoines, des préservations. Mais d'autre côté, c'est un travail de faire le mouvement de cette musique, faire cette musique mouvementée. Si tu prends Maurício comme exemple, il a un travail de composition qui mélange le langage du choro avec le langage des musiques de l'Amérique du Sud. Parfois, il utilise des métriques qui ne sont pas très usuelles dans les choros, les traditionnels. Il mélange ça avec des autres métriques, des autres genres, d'autres cultures. Il fait ça bouger. Il n'arrête pas de composer. Je crois parfois tu as dit qu'il a un travail, qu'il fait chaque 4 ans, il fait une composition par jour. Ça devient au fin d'une année 365 compositions. Et tout ça dans un an seulement. Et il fait ça habituellement. Il a une œuvre vaste. Mais je crois que ça, c'est un mouvement qui n'arrête pas avec les gens ici des Rio. Dans ma ville, par exemple, il y a des gens qui sont des compositeurs de choro, qui sont en train de jouer, qui s'intéressent pour ces langages. Et du coup, ça commence à bouger. Bon, je crois que ça reste toujours, comme tu as dit, c'est une niche. On dit que ça bouge, que cette musique, on continue à jouer, mais c'est toujours un champ très fermé, je crois. Mais je crois qu'ici, c'était un projet d'État. C'était une politique culturelle d'État qui les a aidés à faire tout ça. Je ne suis pas sûr si l'État continue à les aider. C'est un espace incroyable, il faut faire toujours des choses pour les maintenir. Je crois que tu sais que maintenant on est dans un moment politique terrible et ça dure déjà 4 ans, 3 ans. Et avant ça, on était dans un moment très, très bon pour la culture. Il avait plus d'argent pour la culture et maintenant c'est un peu plus compliqué. Mais il a des mécanismes politiques. Par exemple, il y a un mécanisme ici qui s'appelle Leis de Incentivo à Cultura. C'est une loi pour garantir la subvention de la culture pour les entreprises. Au lieu de donner de l'argent des impôts pour les gouvernements, il verse cet argent pour les initiatives culturelles. Et je crois que cet espace-là, il a été fait avec ce type d'initiative. Il ne faut pas perdre cette dimension que c'est toujours en niche. Ce n'est pas une chose vraiment vaste. Et d'autre côté, il a les subventions gouvernementales, mais je crois que c'est surtout le travail des gens qui font cette chose bouger.